Gloire à Dieu. Nous continuons notre étude sur Job. Job, c'est quelqu'un qui est considéré intègre par Dieu comme juste. Et comme nous l'avions souligné dans les dernières séances, être considéré comme juste par Dieu ne veut pas dire être parfait. Voilà, donc juste, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu et qui veut fuir le mal. C'est ça le juste, et même s'il n'est pas parfait. Mais il est en train d'expérimenter des souffrances atroces dans sa vie. Il est en train de vivre des événements très difficiles. La pauvreté, la maladie, la mort dans toute sa famille. Et il est assisté dans son deuil par des amis qui, au début, s'étaient tus, mais devant les lamentations de Job, il commence à attaquer Job, voilà, avec le raisonnement global suivant. Si tu étais correct, si tu étais juste, les malheurs qui t'ont atteint, Job, ne seraient pas arrivés. Voilà, c'est ça leur raisonnement globalement. Et Job, lui, il crie et se lamente. Et dans ses lamentations, il affronte même Dieu lui-même. Voilà. Sans, comme on l'avait souligné précédemment, sans perdre la foi, l'élément le plus important. Car souvenons-nous, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on est parfait. Donc c'est un élément très important à souligner. Donc dans ses lamentations, Job ne perd pas la foi, mais il conteste la manière dont Dieu s'emploie à le travailler lui. Voilà. Et donc ses amis saisissent ces paroles de Job qui parfois ne sont pas vrais, puisque Job accuse aussi Dieu des choses. Ils saisissent ces paroles-là pour dire à Job, « Attends, on ne touche pas à Dieu, on ne touche pas au Tout-Puissant. Entre toi et lui, c'est toi qui es dans l'erreur. » Voilà, d'ailleurs, on a toujours vu que le juste s'en sorte bien dans sa vie. Si tu as tant de malheurs, forcément, tu a quelque chose à te reprocher, et voilà, ainsi de suite. Voilà un peu le résumé de tout ce qu'on va entendre jusqu'à la fin, où on va entendre des choses autres, des choses nouvelles. Et au milieu de tout ça, il y a des belles paroles de louange. C'est pourquoi Job fait partie des livres poétiques. Parce que dans ce débat philosophique, dans cet échange spirituel, dans cet échange, comme certains diraient, métaphysique, donc sur l'être humain, sur tout ça, sur Dieu, dans cet échange-là, il y a des louanges qui sont faites à Dieu. Dans cet échange, il y a des paroles de sagesse qui sont dites concernant l'humanité, concernant l'action de Dieu dans l'humanité. Donc c'est pourquoi dans sa structure, les gens préféraient mettre le livre de Job dans les livres poétiques parce que c'est beau à lire, c'est des réflexions, c'est des paroles de sagesse. Mais le fond reste le problème de la souffrance. Pourquoi souffre-t-on? Où est Dieu pendant qu'on souffre? Dieu voit-il? Donc, ça fait partie des problèmes de ce livre. Et Job, il dit, à un moment donné, il accuse Dieu, il dit, mais il n'est pas comme nous. Il n'a pas les yeux comme nous, il n'a pas la chair comme nous pour ressentir nos souffrances. Ce qui est faux, parce que Dieu a répondu en cela en venant prendre une chair comme la nôtre par son fils Jésus. Au fait, quand souvent nous disons que Jésus est la réponse à tout, Jésus, Dieu, en lui, Dieu a tout mis comme réponse, comme solution, comme explication sur tout ce qui existe, les gens ne saisissent pas la grandeur de cette phrase-là. C'est vraiment une réalité. Quand Job dit, mais il n'a pas de chair comme nous, c'est au chapitre 10, je crois, verset 4. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme? Et tes années comme ses années? Donc Job dit à Dieu, mais tu n'as pas des yeux comme nous, tu n'as pas la chair comme nous. Donc, c'est facile pour toi de nous observer dans nos épreuves et d'en tirer des conclusions, de nous gérer. C'est nous qui recevons les coups. Toi, tu es là-bas loin. Et Dieu nous a fermé la bouche. À nous tous, parce que nous avons tous ces mêmes raisonnements que Job expose là. Voilà. Dieu nous a fermé la bouche. Il est venu lui-même en chair. Maintenant, pour souffrir même plus que nous tous réunis en son fils Jésus. Il a eu une chair comme nous. Il a eu des yeux comme nous. Il a subi les outrages comme nous, sauf la maladie, parce qu'en lui, il n'y avait aucun péché. Mais le reste, persécution, commérage, fausse accusation, torture physique, torture morale, spirituelle, il a subi tout ça. Maintenant, il a subi ça plus que nous tous de loin, parce qu'il a réuni tout ce que nous avons subi. Ça a été placé en lui. Comme ça, on ne peut pas dire, ah mais Dieu est loin là-bas, il ne réalise pas ce que nous vivons, il est sur son trône, il est tranquille, même si on nous dit qu'il compatit, mais quand même, il n'a pas pris notre corps pour subir ce qu'on subit. Vous savez, à l'époque où ma mère était encore vivante. Ma mère était encore vivante. Quand, en tant que serviteur de Dieu, j'allais dans les deuils, parfois exhorter les gens, fortifier ceux qui perdaient leur maman, on finissait par me dire, bon, pasteur, merci, mais le jour où ça t'arrivera, tu comprendras. Voilà. Donc les gens, c'est toujours comme ça. Mais tu n'es pas à notre place. C'est beau ce que tu dis. Et donc, quand ma mère est morte, ça m'a fait trop mal, beaucoup mal. Mais désormais, quand j'allais dans les deuils où il y avait une maman qui était perdue, j'étais en forme. Donc j'attendais qu'on me dise, tu ne peux pas tout comprendre parce que tu n'es pas passé par là. Je disais, stop, ma mère est morte, je sais ce que c'est. Là, vous ne mourrez plus. Bon, maintenant, mon père vient de mourir. Donc, les gens qui perdront leur papa ne mourront pas non plus. Donc, je leur dirai, je sais, j'ai même porté le cercueil. Voilà. Donc, comme ça, les hommes cherchent toujours des excuses. Ah oui, c'est bien tes exhortations, mais tu ne passes pas par les mêmes problèmes que nous. Maintenant, Dieu nous dit, silence, silence. J'ai pris votre corps. J'ai pris la même chair que vous. J'ai été humilié. Je me suis comporté comme un esclave. Et ça, c'est Philippiens 2 qui explique tout ça. J'ai même renoncé, j'ai mis de côté ma puissance pour vivre exactement comme vous, par l'aide du Saint-Esprit. Et j'ai été crucifié pour vous encore. Qui a subi la crucifixion parmi nous, bien-aimés? Vous savez, la crucifixion, ça veut dire ceci. Tu es presque nu, il ne te reste qu'un caleçon. On te suspend devant tout le monde. Maintenant, il n'y a pas que la suspension devant tout le monde. Il n'y a pas que le fait qu'on t'accroche devant tout le monde. Il y a le fait qu'on t'accroche par des clous. C'est des clous qui sont dans ton corps. Donc, tu souffres et pleures devant tout le monde. À demi nu. Est-ce que vous pouvez imaginer la honte que c'est? Déjà, bien aimé, imaginons que votre lit d'hôpital, on le pose sur une place publique, dont les médecins viennent te consulter en public, donc tu es là, ton lit d'hôpital est sur la place des Invalides, sur le Champ de Mars à Paris, donc les gens viennent, quand ils passent, ils voient comment on t'auscule. Tout le monde voit que tu es malade, on s'occupe de toi. Et parfois, on est obligé de te passer une éponge pour te nettoyer. Donc, là, ce n'est pas des clous. Juste ton lit en public, quelle honte, qui va supporter ça? Mais là, ce que Jésus a subi, c'est qu'il a été accroché à la croix. Donc, Dieu nous fait taire par rapport à ce que Job dit dans, au chapitre 10. Il dit, c'est faux, je suis venu en chair. J'ai goûté, j'ai subi tout ce que les hommes subissent. Jésus a connu la fatigue, comme tous les humains. Il a eu faim, comme tous les humains. Il a pleuré, comme tous les humains. Donc, personne ne peut dire que Dieu est étranger à nos souffrances. Il n'a pas notre chair, il n'a pas vécu ça. Job, à son époque, pensait ainsi. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que c'est faux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que Job est dans les lamentations. Et ses amis, maintenant, lui répondent. Mais il y a des bonnes notes dans tout ça. Il y a des belles paroles dans tout ça, même si le fond de ces gens-là, souvent, c'est une erreur, mais il y a des bonnes choses dans leur construction. Et une des bonnes choses, c'est que Job dit ceci au verset 14 du chapitre 14, il dit, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vint à changer. » Donc Job dit, « Si au moins j'avais la certitude de la résurrection, je traverserai mon épreuve différemment. » Mais bien aimé, nous aujourd'hui, on a la certitude de la résurrection. Donc, on peut dire que Job était défavorisé par rapport à nous. Nous, on n'a pas d'excuse. Nous, on peut se dire, ben, j'ai le cancer, les médecins n'arrivent pas à me guérir, on a prié pour moi, ça ne part pas, ben, j'attends la résurrection. Et passer quand même l'épreuve dans la joie. Mais Job, lui, n'avait pas ce que nous, on a la certitude de la résurrection. Bien-aimé, pourquoi je soulève ce point? Pour qu'on apprécie le salut qu'on a. Dans notre salut, il y a la certitude de la résurrection. Donc, quand tu viens en Christ, dès le départ, au fait, même dès le premier jour, tu es au courant que le jour de ta mort, tu seras ressuscité. C'est notre première leçon quand on fait les enseignements de base. La première leçon, c'est l'assurance du salut. Et dans cette leçon, les gens sont informés qu'en croyant en Jésus, ils sont destinés à la résurrection. La mort n'a pas le dernier mot sur eux. Donc la résurrection, c'est une vie éternelle avec Dieu au paradis. Ça, c'est important. C'est une information capitale. Notre salut n'est pas le même que le salut des enfants d'Israël, qui n'avaient pas la notion de la résurrection, de résurrection claire dans leur tête. Job nous le montre. Donc, ils devaient être beaucoup plus déstabilisés que nous. Donc, nous, aujourd'hui, nous devons avoir un comportement meilleur que Job, puisque nous avons l'assurance de la résurrection. Et nous avons lu un passage dans 2 Corinthiens 1, 8 à 9, où Paul faisait, donc justement, accomplissez ce que Job est en train de dire là. Donc nous allons lire ça, 2 Corinthiens 1, 8 à 9, avant de passer au chapitre 15. Nous lisons 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Donc quand Job dit dans Job 14, 14, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. » Donc malgré mes souffrances, j'aurais quand même une force, une lumière, en me disant, ben, de toute façon, même si mes souffrances m'amènent à la mort, mais il y a une bonne vie, une belle vie qui m'attend. Voilà, après ma mort. Voilà. Et Paul nous fait la démonstration de ça dans 2 Corinthiens 1, 8 à 9.
Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts.
Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ce passage? Il dit qu'on était très accablés. Job, là, il est très accablé. Paul a connu aussi des situations où il était très accablé. Nous ne savons pas c'était quoi exactement. Mais il était tellement accablé qu'il n'espérait même plus en la délivrance. Il s'attendait juste à mourir et sa force de tenir dans cet accablement, c'était qu'il allait ressusciter après la mort. Vous voyez, donc Paul a accompli ce que Job est en train de dire. Si je savais que j'allais ressusciter, au moins je traverserais cette épreuve différemment. Effectivement, Paul a accompli cela. Il a traversé cette épreuve dure dont il nous parle dans 2 Corinthiens 1, 8 à 9. Vous savez, il y a des épreuves qui t'enlèvent la foi à la délivrance. Tu as prié 5 jours, 3 jours, et les choses s'empirent. Ou bien, ça fait 20 ans que tu pries. Tu finis, pour beaucoup de gens, à vivre dans une sorte de résignation, ce qui n'est pas bien. Mais oui, mais ça a dépassé Paul à tel point qu'il était résigné. Il se dit, bon, ça va aller comme ça. Mais au moins, ça aboutira à la mort. Et la mort me fera passer par quoi? Ben, par la résurrection. Ah ben, pourquoi pas? Vous voyez, le chrétien au moins, il se dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas mourir? Puisqu'après, je ressuscite, je me retrouve au paradis. Donc, ça permet aux chrétiens de traverser les pires épreuves qui semblent l'amener à la mort, de les traverser quand même bien. Parce qu'il sait que l'aboutissement de tout, c'est la résurrection avec Dieu au paradis. Voilà, donc nous prenons Job 15. Chapitre 15, c'est le second discours d'Éliphaz. C'est lui qui avait commencé à parler en premier.
Éliphaz de Théman prit la parole et dit « Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Toi, tu détruis même la crainte de Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche. Et tu prends la langue des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Es-tu né le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Il y a parmi nous des cheveux blancs, des vieillards, plus riches de jours que ton père. Tiens, tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et que signifie ce roulement de tes yeux? Quoi? C'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exalte de pareils discours. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau? Je vais te parler. Écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père.
Voilà, donc, que dit l'ami de Job? Il dit, mais attends, Job, attention, tu veux te fâcher contre qui? Contre Dieu. Qui es-tu? Tu te crois plus intelligent que nous. Voilà, donc ça devient vraiment une forme d'échange. Voilà, accusateur, quoi. Voilà. Donc, tu n'es pas. Tu as un problème, Job. Donc, tu oses parler comme si tu étais le plus sage des hommes. Nous aussi, on est sages. Nous aussi, on comprend la même chose que toi. C'est ce que Job aussi leur avait dit. Hein. Donc, et d'ailleurs, parmi nous, il y a des gens qui sont plus vieux que toi de loin. Donc, il faut quand même un peu de respect. Tu oses affronter Dieu. Ouais, donc, ces gens-là avaient raison. qu'est-ce que je veux dire en disant ils avaient raison? Je veux dire qu'ils disent des paroles vraies, mais ils disent ça dans une logique mauvaise. Mais les paroles sont vraies. On n'a pas à se fâcher contre Dieu. On gagne rien du tout et Dieu ne se trompe pas. Donc Job a tort dans cela quand Job ne cesse de dire que mais Dieu est en train de m'assaillir, de me frapper outre mesure. Donc il est en train de se tromper. Voilà. Donc il n'a pas à se fâcher contre Dieu. Et ils lui disent l'homme n'est rien. Et c'est vrai. Au verset 14, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Voilà, tout ça c'est vrai. Donc Job, tu n'as pas à considérer que tu sois l'égal de Dieu. Donc l'homme a toujours des erreurs, ça c'est vrai. Et là où ce qu'on veut relever, par exemple au verset 15, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui. Voilà, ça c'est faux, c'est pas quelque chose de dit dans la Bible clairement. Donc c'est que Dieu n'ait pas confiance à ses anges. Non, Dieu a les anges tels qu'ils sont aujourd'hui, les anges de Dieu ne pécheront plus. Ils ont vécu leur épreuve de choix, ils ont choisi Dieu et c'est éternel. C'est ce que nous aussi nous avons vécu, notre épreuve de choix, nous l'avions fait. Nous l'avons fait. Le jour où nous ressusciterons, ça ne sera plus possible de nous faire pécher. Donc le combat, c'est ici sur terre. Mais le jour où on reprendra une nouvelle vie, par la résurrection, on ne péchera plus. Donc les anges qui ont traversé l'épreuve de la rébellion de Satan et qui sont restés avec Dieu, ils ne pécheront plus. Donc Dieu leur fait bien confiance puisqu'ils ne pécheront plus. Voilà. Verset 16, combien moins l'être abominable et pervers. Donc, ils disent, mais bon, Dieu fait attention aux anges et à combien plus forte raison nous, les hommes. Bon, donc, ce sont des paroles d'une certaine sagesse, mais c'est dit dans le but d'accabler Job, de lui montrer qu'il a tort. Voilà. Le but, c'est de montrer à Job qu'il a tort. Or, nous avions dit la fois passée, il ne faut pas être des médecins du néant, être là seulement pour voir les fautes des gens. Juste pour leur prouver qu'ils ont tort et ne pas apporter la solution. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on soit des sauveurs. Voilà, nous continuons. Donc maintenant, ils vont lui parler du sort du méchant. Verset 18.
Ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvantent. Elle l'assaille comme un roi, prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint, et il habite des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne se relèvera pas. Sa postérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent.
Voilà, donc notre ami Eliphaz nous décrit le sort des méchants. Quand on est méchant, comment ça finit, quoi? Il dit, ben, ça finit mal. Et c'est résumé dans la phrase, dans le verset 31. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Jésus nous l'a dit sous une autre forme, on récolte ce qu'on sème. L'apôtre Paul nous l'a dit aussi. Donc, ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Donc, si tu as semé le mal, tu récolteras le mal. Mais au début, quand tu sèmes, tu as l'impression que le mal te donne des avantages. Mais ce passage nous dit non, la finalité du mal sera le mal. Le mal ne peut pas te donner des avantages. Voilà, mais c'est vrai que au milieu, avant de voir la finalité du mal, il y a une partie où le mal, on a l'impression que le mal paye, le crime paye. Tu as tué quelqu'un pour prendre sa place. Au début, effectivement, tu as pris sa place. Donc, tu as pris les avantages liés à la place. Mais on a vu ça avec Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est poursuivi pour tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il est quand même malheureux. On l'aide à s'asseoir, à marcher. Voilà. La finalité du mal, c'est le mal. Là, on vient de voir un président qu'on a appelé maréchal la semaine passée, en grande pompe, maréchal Idriss Déby. Et aujourd'hui, il est mort à cause des blessures reçues lors d'un affrontement pendant la guerre. Voilà. En une semaine, il est passé de maréchal à cadavre. Vous savez, quand on est cadavre, on est même moins important qu'un chien, hein? Un chien vivant. Hein? Voilà. Le chien vivant, il peut encore respirer, jouer, manger, courir, mais toi, tu es, c'est fini. Et surtout quand on pense au jugement qui l'attend. Voilà. Donc, c'est pour dire que la récompense du mal, ça restera le mal. Même s'il y a une parenthèse au milieu qui peut paraître puissante ou réjouissante, ce n'est qu'une illusion. La fin de la parenthèse sera une souffrance, une grande souffrance. La récompense du mal sera toujours le mal. Donc, ils disent à Job, voilà le sort des méchants. Bon, entre nous, sous-entendu quoi? Donc, Job, tu te comportes comme un méchant. Voilà, pourquoi raconter à Job le sort des méchants? Donc, c'est pour dire, tu te comportes comme un méchant. Ou alors dire, n'essaye pas de te comporter comme un méchant. Voilà. Donc, tu es dans cette direction-là. Je pense que là, ils sont trop sévères envers Job. Jusqu'à le décrire presque comme un méchant. Ils sont très sévères. Mais c'est ça qui arrive, c'est ce qui arrive quand on est dans un débat et qu'on veut avoir raison. On finit par être trop sévère envers les gens. Parce qu'on veut avoir raison. Donc, on prend les plus petites failles de l'autre pour l'accabler. Et on peut faire passer un bouc pour un lion. Tellement, ou bien un bouc pour un taureau. Tellement, on veut l'accabler, on le décrit comme un taureau. C'est ça qui se passe dans les polémiques, dans les échanges, quand on veut avoir raison. Il faut vraiment faire attention, bien-aimés, dans les échanges, les discussions, où on veut, même quand on veut ramener l'autre à la raison, on doit éviter de vouloir gagner dans la discussion. C'est-à-dire que dans la construction finale de l'échange, ça paraît que toi, tu as eu raison. Bien-aimé, on peut, à la fin d'un échange, paraître n'avoir pas convaincu quelqu'un, mais le plus important, c'est d'avoir dit ce que le Saint-Esprit a voulu dire à travers toi. Le but, ce n'est pas que l'autre dise « Ah, t'as raison !» Non. Le but, c'est que toi, tu dises ce que Dieu veut que tu dises. C'est ça qui est important. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Nous devons apprendre ça. Nous avons fait fuir beaucoup de personnes. Nous avons perdu des batailles spirituelles, beaucoup de batailles spirituelles, parce qu'on a voulu toujours avoir raison. Que l'autre reconnaisse « J'ai tort !» Non, on n'a pas besoin d'avoir raison. On a plutôt besoin que la raison revienne dans le cœur de la personne. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Nous contentons-nous de dire ce que nous avons à dire. Sinon, on arrive à des extrémités pareilles où on va appeler le fils d'un bélier, on va l'appeler un taureau parce que on veut l'accabler. Donc il faut faire attention. Donc restons sages dans notre façon de parler. Donc là, ils nous décrivent le sort du méchant et Job va répondre au chapitre 16.
Job prit la parole et dit « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au fils de l'homme contre ses amis? Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas.
Voilà, Job est désespéré. Il est désespéré et il répond à ses amis en disant « vous êtes des consolateurs fâcheux. Voilà, vous êtes des faux consolateurs. Vous êtes des, on reprend encore le terme d'avant, des médecins du néant. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Au fait, votre consolation, c'est m'apporter davantage encore de la colère. Ce n'est pas bon, votre manière de faire. Et Job redit encore ses souffrances. Et comment il est déchiré, il est insulté. C'est comme si ils ouvrent la bouche pour le dévorer. Sa maigreur se lève. Il est épuisé. Il dit au verset 15, « J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. » Vous savez, parfois ça gratte tellement. Il a roulé sa tête dans la poussière. Donc il est dépassé par des souffrances innommables. Vraiment, Job souffre terriblement. Et il continue à dire que c'est Dieu le responsable de toutes ces souffrances. C'est lui qui l'accable. Mais, comme nous l'avions dit précédemment, il y a un élément très très important, c'est la foi. Job garde la foi en Dieu au point qu'il fait recours à lui. Même s'il dit que c'est Dieu qui est à l'origine de ses souffrances, même s'il dit que c'est des souffrances qui dépasse le mal que Job aurait pu faire, hein, si on est dans la logique de récolter le mal qu'on a fait. Il a dit, mais c'est des souffrances qui n'ont pas de commune mesure avec un quelconque mal que j'aurais fait. Mais tiens, Job, il finit par dire un passage très très important au verset 19. Déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Tiens, Job reconnaît que dans tout ce qui se passe, Dieu existe et qu'il voit. Bien-aimé, oh combien c'est important une telle attitude. C'est très très important de réaliser que Dieu existe et qu'il voit ce qui se passe. Il appelle même mon témoin. Donc il fait quand même confiance en Dieu. En finalité, il dit, bon, Dieu aura la bonne appréciation de ce qui se passe. Il est mon témoin. Au fait, nous retrouvons quoi? Nous retrouvons à peu près ce que Pierre et les autres avaient vécu à un moment donné, quand Jésus avait dit qu'il faut le manger, il fallait le manger, tout le monde a quitté le Seigneur. Quoi? Il veut nous amener dans le cannibalisme? Les gens l'ont quitté. Et Jésus a demandé à Pierre et aux autres, « Mais vous, pourquoi vous ne me quittez pas? Pourquoi vous n'allez pas avec les autres ?» Pierre a dit quoi? « Où irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. » Bien-aimé, c'est ça qui arrive à l'homme droit, à l'homme juste. Même si il n'est pas content de la manière dont Dieu fait les choses dans sa vie, il sait que Dieu existe. Et il sait que Dieu est bon. Au fond de lui, il y a quand même ça. C'est ça la différence entre un juste et un non-juste. Un juste ne va pas traverser la barrière, la ligne rouge de dire que Dieu n'existe pas. Il ne va pas traverser ça. Il ne va pas traverser la ligne rouge comme quoi Dieu est mauvais. Non, 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 non. Il se plaint de ce qui se passe par Dieu chez lui, mais il reste convaincu au fond de lui que Dieu est bon, Dieu est juste et Dieu voit, il existe surtout. Rappelons-nous Hébreux 11:6. Or, c'est un verset bien-aimé qu'il faut mémoriser. Hein. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un verset capital. C'est un verset qui présente la manière dont notre relation avec Dieu doit se faire. C'est la foi qu'il existe. C'est simple. Hein? Ce n'est pas un verset qui te dit, voilà les 25 commandements. Non, 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 non. Pour être agréable à Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il répond à ceux qui le cherchent. Quand on dit « il rémunère ceux qui le cherchent », ça veut dire « il répond positivement à ceux qui le cherchent ». Bien aimé, pourquoi? Aujourd'hui, admettons que je sois esclave de la cigarette. Mais si je crois que Dieu existe et qu'il répond, qu'il résout les problèmes, qu'est-ce que je veux faire? Je vais crier à Dieu « délivre-moi de la cigarette ». Croire en l'existence de Dieu et en ses capacités de réponse, c'est ça là, c'est ça qui permet d'être agréable à Dieu. Même si tu es dans la religion, tu ne voles pas, tu ne mens pas, mais dans des situations où ton fils meurt et tu renies Dieu. Ah non, 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 non. Si Dieu existait, mon fils ne serait pas mort. Alors que tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne fumes pas. Mais tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne crois pas qu'il existe. Mais la prostituée, qui au fond d'elle
sait que Dieu existe. Elle a honte de ce qu'elle fait. Et elle n'a pas encore l'éclairage pour crier à Dieu, mais elle sait que Dieu peut résoudre ses problèmes. Le jour où elle a comme une porte, une facilité à demander l'aide de Dieu, elle va le faire, elle va être délivrée. C'est pourquoi Hébreux 11, 6, c'est capital. Croire que Dieu existe et qu'il a la capacité de répondre, c'est capital. Beaucoup sont dans les églises. Ils font de la religion. Ils ne volent pas, ils ne mentent pas, ils sont réguliers dans les activités. Mais, s'ils voient un frère dans la difficulté, il va dire non, j'ai mes projets à moi, je garde mon argent pour moi. Mais quiconque croit que Dieu existe, il va se dire quoi? Ben, il est écrit dans la parole, celui qui arrose sera arrosé. Donc même s'il y a la crainte par rapport à tes projets, tu te dis, mais oui, mais j'avais projeté de telles choses. Mais oui, mais tiens, il y a un verset qui dit que si je donne, je vais recevoir au centuple. Celui qui donne recevra beaucoup. Donc, il voulait aider, il était freiné par le fait qu'il a ses projets. Mais quand il sait que Dieu existe et qu'il rémunère, il peut aider parce qu'il sait qu'il ne perdra pas son projet, Dieu pensera à lui. Vous voyez bien aimé, Hébreux 11, 6, combien c'est capital. Ça permet d'avoir toujours recours à Dieu et avoir les solutions. Donc d'où obéir aussi à Dieu, puisqu'on peut lui demander de l'aider, de nous aider à lui obéir. Mais quelqu'un qui obéit en apparence au commandement, mais qui ne croit pas trop que Dieu existe, il finira par désobéir. Parce qu'il viendra un moment où il aura le choix, comme le jeune homme riche, non? Donc il obéissait à tout. Mais quand on lui a dit « Vends tous tes biens et suis-moi », il s'est dit « Mais je veux vendre tous mes biens, je veux devenir pauvre. » Mais quelqu'un qui sait que Dieu récompense ceux qui le cherchent, il rémunère ceux qui le cherchent, il n'a pas peur de perdre pour Dieu. Il sait que Dieu rémunérera. Voyez, il a dit, donc ça va lui permettre donc d'obéir à tout finalement, alors que quelqu'un qui obéit par une force mentale, personnelle, ça existe beaucoup de gens qui obéissent à des lois divines sans vraiment connaître Dieu. Ça existe. Mais ces gens-là auront une limite, alors que quelqu'un qui croit que Dieu existe, il n'a pas de limite. C'est jusqu'au bout. Donc il peut obéir à tout, puisque Dieu vient, il criera toujours à Dieu, Dieu viendra à son secours. Donc Job dit « Dieu est mon témoin ». Il montre par là qu'il croit en Dieu. Il montre par là que Dieu est juste. S'il le prend pour témoin, on ne prend pas n'importe qui pour témoin. Il croit que Dieu tranchera de la bonne manière. Donc, il y a la foi en Dieu qui est là. Dieu est le témoin. Bien-aimé, Dieu est ton témoin. Prends-le comme témoin de tout. Quoi qu'il existe, nous allons prier par rapport à ça. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à croire vraiment que tu existes. Même face à une tentation, ne pas focaliser nos regards sur la tentation, mais se souvenir que tu vois et que tu peux nous délivrer de ça. Même quand on est face à des mauvaises nouvelles, on vient d'entendre, nous souvenir que tu existes, qu'on peut faire appel à toi et que tu agiras. Seigneur, qu'on ait la foi véritable en toi, Seigneur, qu'on te prenne pour témoin dans tout. Mais tu es le témoin, en même temps juge. Tu es le témoin, en même temps avocat. Quel bon témoin nous avons en toi, Seigneur. Et tu es le témoin qui est devenu notre papa, notre bon Dieu qui veut nous faire toujours du bien, nous sauver. Et même quand tu nous châties et nous corriges, c'est toujours pour notre bien. Sois notre témoin à jamais, papa, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous écoutons la question avant de passer au chapitre 17.
Question Internet. Donc l'internaute veut que tu puisses lui expliquer Proverbe 25 au verset 26. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant.
Comme une fontaine troublée
et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant.
Donc là, ça veut dire quand on dit le juste qui chancelle devant le méchant, c'est le juste qui se laisse corrompre par le méchant. Donc le juste a une certaine grâce divine en lui
Donc lié à sa relation de juste. Maintenant, quand il se laisse influencer par le méchant, c'est comme si le poison entre dans l'eau que Dieu avait donnée aux justes pour donner aux autres. Donc la fontaine est troublée. Quand on dit fontaine troublée, peut-être les gens pensent que fontaine troublée, c'est que tu mets un bâton, ça bouge. Non, c'est, fontaine troublée, ça veut dire qu'elle n'est pas pure. Il y a de la terre, il y a de la saleté, c'est ça. Quand on dit que l'eau est trouble, donc ça veut dire que c'est pas pur, il y a de la saleté dedans. Et donc une source, on a dit une source
corrompue.
Corrompue, voilà. Donc c'est une source avec de produits toxiques dedans. Voilà. Donc alors que le juste, ça doit être une source qui abreuve les gens correctement. Mais quand le juste se laisse influencer par le méchant, finalement, toute la grâce que Dieu a déposée dans la personne va contribuer à détruire. C'est pourquoi vous voyez que les plus grands destructeurs à notre époque, c'est qui ? C'est les pasteurs. Beaucoup de pasteurs ont été corrompus par l'argent, par l'esprit de l'argent, par l'esprit du succès. Et finalement, c'est eux qui détruisent le plus, plus que même les méchants. Plus que même les méchants. Parce que les gens sont venus auprès d'eux pour recevoir de la bonne eau. Ils reçoivent de l'eau corrompue parce qu'eux-mêmes sont corrompus. Le juste qui se laisse influencer par le méchant, il devient un danger pour le peuple de Dieu, un danger pour le monde même. Vous imaginez, quelqu'un est venu dire qu'il est en difficulté par rapport à en difficulté financière chez toi, et toi tu lui dis, mais si tu veux que je prie pour toi, commence par vendre ta voiture et me donner une offrande. De je ne sais pas comment ils appellent ces offrandes-là. Donc finalement, c'est des destructeurs. Donc le juste doit faire bien. Mais ça, c'est un bon verset. Ça nous appelle à faire attention. On ne doit pas se laisser corrompre. Si on se considère comme juste, ne te laisse pas diriger, influencer, prendre des routes par des conseils des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Il faut faire très, très attention là-dessus, quoi. Des conseils, quand tu sens, on le sent que ce sont des conseils teintés de quelque chose d'impur, mais ça peut nous arranger en ce moment-là et on prend le conseil. Ah non, c'est pas bon. Parce que on va être vraiment une source de destruction pour beaucoup de personnes. Donc nous continuons, chapitre 17. Job 17.
Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution. Autrement, qui répondrait pour moi ? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi ne les laisseras-tu pas triompher ? On invite ses amis au partage du butin. Et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi ? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit, c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeurer, que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut la voir ? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière.
Voilà, donc Job est découragé et il continue à se lamenter. Alors, nous allons faire la différence, faire une différenciation entre les lamentations et la rébellion ou les murmures. Les lamentations, c'est crier
tout haut notre souffrance. Je ne dis pas que les lamentations, c'est à 100%, dénué de mauvaises choses. Mais l'idée dans le mot lamentation, c'est que ce n'est, il n'y a pas une idée de mauvaises choses. Il y a plus l'idée de crier tout haut ce qu'on vit de négatif. Voilà, c'est ça les lamentations. Ah, je souffre. On m'a volé tous mes biens. Où irai-je ? En fait, tu cries tout haut ta souffrance. Il peut arriver que dans les lamentations, on s'écarte. Mais en général, les lamentations, ce n'est pas ça. C'est crier tout haut sa souffrance, crier tout haut son désespoir, crier tout haut l'injustice qu'on subit. C'est ça les lamentations. Donc, fondamentalement, les lamentations, ce n'est pas bon. Et non, fondamentalement, ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ça nous amène à chercher la face de Dieu pour être secourus. Comme lorsque nous lisons pratiquement tous les psaumes, ça commence par des lamentations, ça finit par l'adoration, la louange et la confession d'un avenir meilleur. Voilà. Donc les lamentations doivent nous conduire à chercher la face de Dieu et on ressort de ça par beaucoup plus de foi, l'adoration et la louange. Mais fondamentalement, ce n'est pas mauvais les lamentations. Job est dans la lamentation. Dans ses lamentations maintenant, il y a des écarts parfois. Mais le fond de tout ça, c'est des lamentations parce qu'il n'a pas murmuré contre Dieu. C'est ça la différence. Il ne s'est pas rébellé contre Dieu parce qu'il finit. Il dit dans ses lamentations que il en appelle à Dieu comme témoin. Et ailleurs, il dit que Dieu est sa caution. Voilà. Donc, dans le chapitre 17, il le dit quelque part que Dieu est sa caution. Donc, il fait quand même toujours confiance en Dieu. Donc, il n'est pas dans la rébellion. Il n'est pas dans le murmure. Donc, il ne se met pas en opposition vis-à-vis de Dieu, mais il est dépassé par ce qu'il endure et il déclare ça tout haut. Il déclare tout haut les pensées mauvaises qui peuvent aussi le traverser. C'est ça les lamentations. On sort tout ce qui nous atteint. On sort cela. Pour résumer, lamentation, c'est des cris. On crie, voilà, on crie. Ce qu'on vit, on crie ça. Mais la rébellion, ben, c'est entrer maintenant en conflit ouvert. En conflit ouvert et dire, bon, non. Ce que Dieu a fait, bon, c'est pas bon, et ben c'est fini, quoi. Je ne crois plus trop. Voilà, je me souviens de cette dame dont je vous parle souvent, qui avait fait 40 ans de ministère en Inde avec son mari, pasteur. Et quand son mari est mort, donc je suppose que quand on fait 40 ans de ministère, on a dû avoir environ 43 ans de vie commune. Donc je pense que 43 ans de vie commune avec quelqu'un, bon, je pense qu'on doit s'en rassasier quand même. Voilà, mais bon, quand son mari est mort, elle est devenue accro des séries télévisées. Elle ne parlait plus de Dieu. Ce sont ses petits-enfants que elle-même elle a amenés au Seigneur qui commencent à lui dire, mais mamie, où est Jésus? Mamie, tu nous as amenés à Christ. Elle ne répondait pas et continuait à regarder la télé. Ça, c'est pas les lamentations. D'ailleurs, même elle est silencieuse. Hein? Elle ne crie pas. Mais elle a pris une position contre Dieu. Parce qu'on lui a pris son mari. Mais c'est celui qui a pris, c'est celui aussi qui avait donné. Les gens, nous oublions ça, que ce que nous revendiquons qu'on nous a pris, mais finalement, on oublie qu'on nous avait donné ça par la même personne et qu'il a, il a le droit de reprendre ce qui est à lui. Bon. C'est ça l'orgueil, l'ingratitude humaine. L'homme est ingrat Et nous devons nous souvenir de tout ça. Quand nous entendons quelqu'un se lamenter, ne l'attaquons pas comme quelqu'un qui se rebelle. Ne l'attaquons pas comme quelqu'un qui est en conflit ouvert avec Dieu et qui a pris position contre Dieu. On est des humains. La souffrance peut nous faire pousser des cris. La souffrance peut nous faire délirer. C'est-à-dire qu'on dit n'importe quoi. Vous savez, bien aimé, moi j'avais... Vous savez, dans notre vie, il y a des péchés. On a l'impression qu'à un certain moment, qu'on n'y tombera jamais, quoi. Moi, je pensais que je ne tomberais jamais dans la jalousie. Pour moi, c'était tellement loin, être jaloux de quelqu'un. C'était tellement loin de moi. Mais quand j'ai connu les épreuves de douleur qui... vous savez, quand une douleur t'empêche même de dormir, donc tu as l'impression que ton corps est inutile. Ton corps est un problème plus qu'un avantage. Bien-aimé, je me suis surpris à être jaloux des basketteurs. Donc quand je voyais les matchs de basket, voir ces gens-là bouger, sauter tranquillement, courir, rire, sourire, je me suis surpris à être jaloux. C'est pourquoi, bien-aimé, il est écrit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Pour moi, la jalousie, tu pouvais me dire, je pouvais te connaître très pauvre et après 2 ans, que tu sois 1000 fois plus riche que moi, ça me faisait rire. D'ailleurs, j'étais même content. Pour moi, vous m'auriez parlé de jalousie, bon, on se dit, bon, on doit faire attention, mais c'est comme si dans ta tête, tu sais, oh, moi, je peux jamais tomber dans la jalousie, quoi. Mais je me suis sur... Vous voyez le terme, hein? Tu te surprends. C'est-à-dire que quand ça vient, tu l'as pas prévu, tu le sais pas. Ça vient comme ça, tu te retrouves jaloux. Ah oui, oui. C'est ça les lamentations. C'est-à-dire que la personne vraiment commence maintenant à délirer, à considérer que Dieu a avantagé les basketteurs. Mais comment Dieu les a avantagés? Voilà, tu te lamentes, c'est pas forcément que tu ne crois plus en Dieu, que tu es en opposition frontale contre Dieu, mais tu sors ce qui vient dans ton cœur. Ah, mais il les a avantagés. Ah non. Et donc, quand on est face à des gens qui se lamentent, faisons quand même la différence avec les gens qui ont pris position contre Dieu. C'est pas la même chose. Job n'a pas pris position contre Dieu, mais il se lamente. Voilà quoi. Lisons le chapitre 18.
Bildad de Shuach prit la parole et dit: quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchire dans ta fureur. Faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous ta tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la frappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces. La misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous le dites à qui? Vous le dites à Job. Bon, est-ce que Job est celui qu'ils veulent décrire là? Ben non. Et Job est condamné, quoi. Voilà. Ces gens-là, ils n'ont trouvé d'autres ressources que condamner Job. Voilà. Donc, voilà. Tu t'opposes à Dieu. Pour eux, ils s'opposent à Dieu. Non. Donc, Job exprime ses souffrances. Il crie, il se lamente, il ne s'oppose pas à Dieu. Voilà, attention, hein, tu deviens méchant. Et voilà, on va te décrire le sort des méchants. Ils ont raison. Ils ont raison. C'est ça le sort des méchants. Et moi, je voudrais nous rappeler de ne pas nous laisser avoir jusqu'à devenir méchants. Vous savez, quand on commence à devenir méchant, eh ben, on réussit au début. On réussit au début. Donc, on fait un petit coup à quelqu'un, ça marche. On critique telle autre personne, on arrive à le salir, on fait ceci. La méchanceté réussit au début. Donc, mais ça finit comme nos amis nous décrivent là. Bildad, il est en train de nous décrire. Voilà, ça finit très, très mal. La description est trop forte, quoi. Voilà. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni suivants d'un lieu qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine. La ruine du méchant est très grande, très très grande. Vous savez, bien aimé, nous avons vu des gens millionnaires, mais qui ont fait des contrats sataniques. À leur mort, les enfants, leurs enfants, leurs descendants meurent. Nous, on a vu ça avec l'ex-président dictateur du Congo Kinshasa, Mobutu. À sa mort, ses principaux enfants sont également morts à sa suite. À sa suite, les richesses dilapidées. À la fin, plus rien ne reste. Hein. Ce que Bildad décrit, c'est vrai, mais tu le décris pour Job. Le monsieur, il souffre. Il ne fait qu'exprimer ses souffrances. Voilà. Soyons quand même équilibrés dans notre façon de gérer les lamentations des uns des autres. Voilà, nous continuons avec la réponse de Job. On va clôturer avec ça, le chapitre 19.
Job prit la parole et dit « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Voilà 10 fois que vous m'outragez.
Effectivement.
N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont, de concert, mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau. Et ma chair, il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc.
Voilà, on s'arrête là. Donc, Job continue à décrire ses souffrances et à développer sa thèse. C'est Dieu qui me frappe. Il me traite comme si j'étais son ennemi. Au fait, Job subit un acharnement de souffrance. C'est-à-dire, vous savez, les choses qui se multiplient. J'aimerais tant, bien aimé, que ça ne soit pas une lecture simple pour nous. Que ce soit vraiment, qu'on puisse être honnête, être aussi sérieux dans ce qu'on fait là. Quand nous traversons des épreuves, faire vraiment une comparaison objective, c'est important avec Job. Tous ceux qui tombent dans ce moment où on est en train de faire l'étude de Job, prends tes épreuves, fais une comparaison objective avec Job. Je crois que tu vas sortir de là en louant le Seigneur, en disant, bon, quand même, cet homme n'a pas vécu ce que moi je vis, quoi. Moi, ce que je vis, c'est rien. Quand quelqu'un vous dit qu'il lui reste que la peau des dents, bien-aimé, quand quelqu'un vous dit que sa tête, il la bouscule dans la poussière pour se gratter. Voilà, donc c'est... Et il en vient à dire, il n'y a que Dieu qui puisse me harceler autant, me tenir. Il m'a traité, verset 11, comme l'un de ses ennemis. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas qui? Ce n'est pas Dieu. Vous et moi, à la différence de Job, nous avons lu le premier chapitre. Nous savons, et le deuxième, nous savons que Dieu a autorisé Satan à faire ce qu'il veut faire. Parce que Dieu était certain de la foi de Job envers lui. Et Dieu voulait utiliser cette épreuve pour produire de belles choses. Que Job n'aurait pas vu s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là. Vous et moi, nous avons lu et nous le savons, mais Job, quand il vit tout ça, il ne sait pas ça. Vous et moi, quand nous subissons les épreuves, nous nous disons, mais il veut m'apprendre quoi, je connais déjà tout. C'est faux, tu ne connais pas déjà tout. C'est faux, tu n'as pas déjà tout vu. Il y a des belles choses que tu n'as pas encore vues. Ça nécessite... Cette destruction que tu subis dans ta vie, ça nécessite, vous savez, il y a certaines épreuves qui nous font ressembler à des tortues, quoi. Tu deviens comme une tortue, tu marches à pas lents. Tout devient lent dans ta vie, tout devient retard. Tu as l'impression que le monde va vite, mais toi tu marches comme une tortue. Voilà. Ce que l'autre fait en 2 jours, toi tu dois faire ça en 1 semaine. Et puis va venir encore une épreuve, la voiture est tombée en panne. Donc, voilà. Tu marches à pas de tortue. Tu as l'impression que tu n'es plus un humain. Alors, fais la comparaison avec Job. Tu te diras, ah, si un intègre serviteur, un homme honnête a pu subir tout ça, pourquoi pas moi? Suis-je meilleur que Job? Quand on lit le premier chapitre, non, on est conscient qu'aucun de nous est meilleur que Job. Mais c'est tout simplement que Dieu permet, parce qu'il a des objectifs de gloire. Nous, on est des humains qui avons comme constitution principale, une de nos constitutions principales, bien-aimés, je le rappelle, c'est l'orgueil. C'est ce dont l'apôtre Paul appelle Il dit, le péché qui nous enveloppe facilement, c'est l'orgueil. C'est le truc qui vient même quand on est bon. Parce que quand on est bon, on peut devenir orgueilleux d'être bon. Alors que quand on est bon, on ne pense pas à voler. Quand on est bon, on ne pense pas à frapper quelqu'un. Mais attention, il y a un péché qui n'a pas peur de la bonté, de la droiture, c'est l'orgueil. L'orgueil peut venir chez quelqu'un qui est droit et bon pour dire « Tu es tellement droit et bon, tu es le meilleur de tous. » Ah ben voilà. Et si Dieu n'attaque pas notre chair, parce que notre orgueil a pour structure notre chair également, la puissance de la vie, ça s'appelle l'orgueil de la vie, le fait de vivre, le fait de regarder, de marcher, de manger, de voilà, l'existence est un support de l'orgueil. C'est pourquoi Dieu s'attaque à notre chair, laisse le diable frapper notre chair pour frapper cet orgueil en même temps. Et c'est le piège du diable. Le diable pense que en nous frappant, il va anéantir notre foi. Or, ça rend service à Dieu pour frapper notre moi et laisser éclater son Fils en nous. Laisser éclater sa gloire en nous. De sorte que quand la gloire est là, notre chair étant écrasée, nous ne serons pas consumés. Mais quand il y a la gloire de Dieu, et notre chair en même temps en forme, il y a conflit entre les deux. Parce que dans notre chair, souvent, il y a l'orgueil qui est porté. Alors Dieu, avant de déverser la gloire, il s'emploie à taper la chair pour que la gloire tombe sur une chair frappée. Comme ça, la gloire peut fonctionner sans tuer la personne dans l'orgueil. Vous allez dire, ah, donc ça veut dire qu'on n'a pas, c'est pas intéressant de rechercher la gloire de Dieu, hein. Eh bien, bien aimé, je peux vous dire par rapport à l'expérience de serviteur de Dieu, la gloire de Dieu détruit la chair. C'est une réalité. Plus quelqu'un reçoit des révélations extraordinaires de Dieu, plus sa chair subira une certaine destruction. C'est une réalité. Maintenant, doit-on fuir la gloire à cause de ça? Non, puisque on va voir les choses autrement. Voilà. La gloire nous amène aussi une vision nouvelle des choses. On accepte cette destruction de la terre. L'apôtre Paul en parle. Je ne le dis pas pour faire peur, mais c'est la réalité. Vous devez être préparé à ça. Paul dit que plus notre être physique se détériore, plus notre être spirituel devient grand. C'est une réalité. Voilà, quand vous lisez les histoires de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont brillé dans la vérité, vous constatez qu'il y a une forme de destruction de la chair. C'est parce que ça ne peut pas coexister. La gloire et une chair en forme, ça ne coexiste pas. Mais quand on est dans cette gloire, bon, on ne se préoccupe pas trop de la chair. C'est aussi ça. On doit souhaiter la gloire parce que c'est notre appel. Mais être préparé à ce que Job est en train de vivre, ça ne nous atteindra pas tous de la même manière. Mais au moins, avec cette étude, tu sais, quand tout ça arrive, donc tu es en préparation. Voilà, ce n'est pas souffrance pour souffrance, mais c'est une souffrance préparatoire. C'est une souffrance de victoire. Parce que pendant que Job est en train de vivre tout ça, il y a la fête au ciel. C'est-à-dire qu'il tient dans sa foi. Il tient toujours dans sa foi. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire au verset 25. Donc nous lisons, nous écoutons plutôt la question avant de finir le chapitre. Donc il y a
deux questions internet et puis il y a une question aussi qu'on avait reçue à la fin de l'étude il y a deux semaines. Donc je pourrais peut-être la reposer aussi. Donc question. Étonnant pour ceux qui sont des qui sont ses amis censés connaître Job, entre parenthèses, amis et non copains simples. Ils ont perdu le sens face à la situation de Job. Étaient-ils vraiment des amis?
Oui, c'était des amis. Mais je peux vous dire, bien-aimé, à un moment donné, malgré l'amitié, il y a comme une sorte de chacun pour soi. Donc on se dit, mais bon. Et puis l'amitié n'exclut pas la jalousie non plus. Donc c'est, on peut être amis, s'aimer vraiment, on peut même être frère et soeur. Mais nous, on a vu mari et femme, ça n'exclut pas des jalousies. Hein. Donc ça peut arriver, c'est des humains. C'est des humains.
Il y a une autre question. Quand tu dis que plus on a des révélations divines, plus notre chair sera détruite. Parle-t-on de la chair en général, entre parenthèses, souffrance physique ou psychologique, ou faut-il obligatoirement passer par une souffrance physique aussi?
C'est pas forcément physique, mais en général, il y a le physique. Mais c'est pas tout le monde qui va subir le physique dans le sens de qu'on peut toucher. Mais c'est dans notre chair. Donc, un exemple avec Moïse, avec un peuple qui était celui qu'on lui avait laissé, il était tout le temps dans une souffrance humaine. Donc, c'est pas que son corps était malade comme Paul, mais il était comme dans une situation d'insécurité, donc quotidienne, avec un tel peuple. Voilà, parce que ben, il était dans la gloire. La gloire va faire que ton moi, ce qui fait ta force, ce qui fait que tu es toi, doit être détruit. Ça ne peut pas coexister. Au fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Or, quand l'homme est fort et qu'en plus il a la gloire de Dieu, il finit par se croire Dieu. Donc, Dieu est obligé, quand il donne une partie de lui-même à toi, il est obligé de t'écraser toi. Parce que s'il ne t'écrase pas, tu deviens son rival. C'est ça qui se passe avec tous ceux qui ont des appels importants ou qui reçoivent, comme Paul a dit, les révélations qu'il a reçues sont tellement grandes qu'on lui a mis une écharde pour l'empêcher de se croire Dieu, de tomber dans l'orgueil. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Je ne le dis pas pour faire peur, je le dis pour nous préparer. Vous savez, là, quand on n'est pas surpris, ça aide à passer les épreuves. Mais quand il y a la surprise, c'est ça qui est difficile. Mais on est là, Dieu nous a établis pour prévenir, pour former les gens, pour former les bien-aimés, de sorte qu'ils servent Dieu jusqu'au bout sans problème. Vous savez, il y a des Nito Schenk, le Watchman, le Watchman Nee. Des gens qui ont fait 20 ans en prison, voilà, tu te dis, mais il est mort en prison. Mais pendant qu'il était en prison, ses livres, sans que lui les ait écrits, hein, d'autres personnes ont copié ses prédications et ils ont transformé ça en livre. Ça se répandait dans le monde entier. Donc, quand vous comprenez ces principes-là que je suis en train de mettre, de présenter, vous comprenez que Dieu ne pouvait pas laisser Watchman Nee dehors avec une telle gloire. Donc ça allait le rendre fou. Donc il fallait qu'il soit en prison pendant que les révélations que Dieu lui avait données se répandaient dans le monde entier. Voilà, donc maintenant vous allez dire, mais c'est triste. C'est pour la personne, c'est pas triste parce qu'elle a compris. Voilà. Oui.
Donc je reviens à la question qui a été envoyée il y a 2 semaines. Jésus, sachant qu'il a porté les péchés de l'humanité, donc considéré comme coupable, Dieu n'a pas apaisé sa souffrance. Sa souffrance était au maximum. Seule la mort a mis fin à tout cela. Job, lui, dans sa souffrance, a le soutien de Dieu. Il y a quelqu'un dont la vie n'est que souffrance aujourd'hui. Cette personne a accepté Jésus dans sa vie, mais refuse le baptême aujourd'hui. Cette personne est très malade et supporte la douleur. Qu'est-ce qui l'a fait tenir dans ses affreuses souffrances plutôt que de céder à Dieu?
Il y a les démons. Les démons peuvent nous donner
des forces où on tient dans des conditions difficiles. Vous savez, les hindous, ils peuvent faire un kilomètre en marchant à genoux sur des tessons de bouteilles. Ils te marchent sur des tessons de bouteilles. Donc les hindous peuvent faire 40 jours de jeûne dans la forêt en mangeant seulement les fientes d'oiseaux. Fientes d'oiseaux et l'eau de pluie. En buvant l'eau de pluie, fientes d'oiseaux. Voilà, donc c'est des gens qui tiennent comme ça par les démons. Donc les démons d'orgueil peuvent nous faire tenir dans la souffrance. Et c'est une réalité. Nous, quand on était des païens, eh ben, on pouvait, même pas seulement païens, même aujourd'hui, si tu dois passer peut-être 4 heures à regarder, pour nous, de notre âge, si tu dois passer 4 heures à regarder les vieux les vieilles choses, les vieux films, les vieux matchs, tu vas regarder sans problème. Il y a comme une force que ta chair te donne, même pas forcément les démons. Mais les païens, c'est des démons qui peuvent leur donner la force de regarder, d'être dans des boîtes de nuit, de minuit à 6 heures. À 6 heures, il va travailler, il est toujours bien. Il est toujours bien. Mais toi, ose seulement commencer à prier de minuit. Quand tu commences à prier, donc juste à minuit 45, donc les yeux commencent à se fermer. Tu veux prendre la Bible, tu vois flou. Donc, ça, il y a les combats. Donc, c'est les démons, autrefois, quand on était païens, ils nous donnaient des forces, on faisait des trucs, on était comme des fous, mais c'était des démons. Oui, les démons donnent la force. C'est pourquoi quand on fait les délivrances, quand on chasse les esprits de quelqu'un, la personne après est fatiguée. La personne est fatiguée. Parce qu'une partie de sa force venait des esprits.
Une autre question. Mais comment faire pour voir la gloire de Dieu puisque le péché qui nous enveloppe si facilement revient toujours malgré les épreuves? Est-ce que ça reviendra moins au fur et à mesure des épreuves?
Ça revient. Non, non. Le péché reviendra. Au fait, il reviendra toujours, mais nous, puisqu'on aurait accepté d'être tués par les épreuves, le péché n'aura plus d'effet sur nous puisqu'on est mort. Mais les chrétiens qui résistent aux épreuves, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, qui ne veulent pas accepter les voies de brisement de Dieu. Par exemple, Dieu veut que tu obéisses à ton grand frère. Dieu veut que tu obéisses à tes parents. Dieu veut que tu obéisses à ton supérieur au travail. Mais toi, tu résistes. Dieu veut que tu obéisses à un pasteur, à une autorité. Mais toi, tu veux faire ton chemin à toi parce que tu n'acceptes pas d'être comme sous quelqu'un. Tu n'acceptes pas l'épreuve de Dieu. Effectivement, eh bien, à chaque fois que ça va venir, ça va te faire du mal. Alors que quelqu'un qui accepte la soumission de Dieu, le brisement de Dieu, le péché revient, mais ça trouve un mort. Ça n'a pas d'effet. Voilà. Donc, pour associer la gloire avec une vie irréprochable, ça nécessite la mort à soi-même. Voilà. Nous clôturons verset 25 jusqu'au bout.
Oh,
ça c'est verset 23.
23. Hein. Ah. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite et se lèvera, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre.
Amen, amen. On continue.
Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement.
Voilà, nous disons, quand Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Nous disons amen. Le juste, au fond de lui, même s'il est dépassé, il sait que son Dieu existe. Je reviens toujours sur ce terme-là, Dieu existe. Ces deux mots-là, Dieu existe, ont une grandeur, ont une puissance, ont une étendue incommensurable. Le juste, au fond de lui, il sait que Dieu existe. Donc même quand il est désespéré, il a dit, quand je n'aurai plus de peau, donc quand tout va, je vais le voir. Il est le dernier à se lever. C'est Dieu qui a le dernier mot. Job 19, 25, c'est un passage à mémoriser. Je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mon Rédempteur, ça veut dire mon Sauveur. Il est mon Sauveur. Il s'occupera de moi. Il s'occupera de moi. C'est ça qui explique que les chrétiens allaient au bûcher pour être brûlés à cause de Jésus. Ils y allaient en chantant. Ils savaient que Dieu a le dernier mot. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Au fond du juste, il sait ça. Qu'il chante ou pas, il est apaisé. Il sait que, bon, Dieu va faire quelque chose à la dernière minute. On y va. Voilà, on y va. Daniel est entré dans la fosse au lion. Il sait que Dieu va faire quelque chose à la dernière minute. Et même s'il ne faisait pas, Dieu a le contrôle de tout. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Les faux dieux sont morts. Lui, il est vivant. Quand ils disent il est vivant, ça veut dire que je ne crois pas en quelque chose de passé ou de philosophique. Non, je crois en un être vivant qui contrôle tout, qui est tout puissant et qui se lèvera le dernier. Il est vivant et il contrôle tout. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Voilà, bénissons et glorifions ce Dieu-là. Ô éternel notre Dieu, nous savons que tu es le vivant. Nous admirons cette phrase qui vient de notre frère Job dans ses souffrances innommables. Il a au fond de lui cette espérance que tu as le dernier mot, que tu es vivant, que tu vas opérer des miracles. Seigneur, devant tout ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, où nous avons l'impression que le mal a gagné, beaucoup de chrétiens se découragent, Seigneur. Nous avons l'impression que les conversions deviennent impossibles. Nous avons l'impression que 90% de ceux qui vont dans les églises sont dans l'erreur. Nous avons l'impression que le mal domine, Seigneur. Mais Job nous dit aujourd'hui que tu es vivant, tu te lèveras le dernier, tu as ton mot à dire en dernier. C'est toi qui finira les choses, c'est toi qui finis les combats, Seigneur. C'est toi qui fais cesser la guerre, c'est toi qui remportes la bataille, Seigneur. La bataille au milieu de ce monde, Seigneur, c'est toi qui vas la remporter. Que ton Église soit rétablie, fortifiée dans la foi, Seigneur. Que les frères et sœurs qui sont malades en ce moment, que tous ceux qui sont dépassés par des choses qui traînent dans le temps, réalisent que tu as le contrôle et le dernier mot, et que l'abattement, l'hésitation, le doute laissent place à la foi et au chant, Seigneur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Lève-toi, fille de Dieu, lève-toi, fils de Dieu, car ton Dieu est vivant. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.